Bonjour tout le monde, c'est lundi, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast du maternel, comme chaque jour, on peut entendre ou réentendre un passage de l'émission du jour, l'émission de France 2. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut préoccuper la puberté, mais la puberté précoce. Vous savez qu'on entend de plus en plus parler d'une puberté précoce qui toucherait des enfants dès 9 ans, dès 8 ans, dès 7 ans, parfois même des enfants plus petits. Donc, dans cet épisode, vous allez entendre un témoignage, Sophia, la maman de Soumeya. Et puis derrière, on va débriefer, comme on dit, et on en aura bien besoin avec une endocrinopédiatrique, une docteure, quoi, docteure Héloïse Djabikani. C'est parti avec Agathe Le Caron.
Bonjour Sophia.
Bonjour Agathe.
Merci d'être avec nous sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors vous êtes maman de deux filles, vous allez nous raconter comment vous avez découvert quelque chose d'absolument incroyable, totalement inattendu, alors que votre fille aînée n'avait que 7 ans. Déjà, est-ce que vous pouvez nous la décrire, Soumeya? C'était quel genre de petite fille à 7 ans?
Donc à 7 ans, c'était une petite fille qui jouait encore au Barbie, qui était assez dans un univers de princesse, qui était assez enfant, assez choyée. Et qui était...
C'était une petite fille de 7 ans classique, avec ses poupées.
Exactement.
Et puis un jour, vous avez remarqué quelque chose d'un peu bizarre.
Oui, alors c'est venu assez rapidement. J'ai remarqué que Soumeya avait des pertes vaginales. Alors au début, j'ai pris ça pour un problème d'hygiène, en fait, intime. Donc on a un peu revu les fondamentaux au niveau de la toilette. Mais je me suis aperçue que malgré ça, en fait, il s'agissait bien de pertes vaginales et pas de problème d'hygiène. Et ça a été très vite, puisque 15 jours après, il y a eu une sorte de bourgeon mammaire qui est apparu au niveau de son sein gauche.
Alors, donc, oui, les pertes vaginales, le bourgeon mammaire, est-ce que tout de suite vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, elle commence. Alors qu'elle joue à la Barbie, elle commence sa puberté, vous vous êtes dit ça?
Alors, je me suis dit ça parce que, étrangement, un mois avant, j'étais tombée sur un rapport de l'UNICEF, justement, qui traitait des pubertés précoces. Et là, j'ai fait le lien entre ce qui arrivait à ma fille et ce qui arrivait à des millions de petites filles à travers le monde.
Alors, on va quand même dire un peu ce que c'est la puberté précoce. C'est quand la poitrine ou les testicules se développent, ou les poils pubiens apparaissent, avant 8 ans chez une fille et 9 ans chez un garçon. Ça, c'est la définition. Donc, effectivement, on était en plein dedans puisqu'elle avait 7 ans. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, en tant que mère? Parce qu'on se met à votre place. Vous dites qu'elle était choyée, voilà, c'était encore votre bébé.
Alors oui, ça a fait naître chez nous une grande inquiétude, hein, parce que justement, elle joue à la Barbie, elle est très choyée. Et du coup, on se pose la question des menstruations, on se dit comment elle va faire pour gérer des règles, les produits hygiéniques, la probable tache rouge.
Oui. Donc pour vous, ça a été... Parce que là, ça a l'air de rien, mais pour vous, ça a été vraiment très difficile.
Ça a été très difficile et puis c'est inquiétant, puisqu'on sait qu'un faible pourcentage de cette puberté peut être dû à des tumeurs au niveau de l'hypophyse.
Est-ce qu'elle s'est rendue compte, Soumeya, de ce qui s'est passé?
Alors, elle se rendait compte, effectivement, parce qu'elle me posait beaucoup de questions. Elle me demandait si moi j'avais mes règles, comment je faisais quand j'avais mes règles. Mais comme c'était une enfant, on ne sait pas vraiment avec certitude ce qu'elle a compris et ce qu'elle n'a pas compris, finalement, si elle sait vraiment ce qui va arriver.
Alors, vous avez d'abord consulté un généraliste, oui, votre généraliste. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Alors, immédiatement, à la palpation, effectivement, il a vu qu'il y avait un développement de bourgeon mammaire et il nous a orientés vers des examens. Donc, au début, une radio du poignet pour déterminer l'âge osseux et une échographie pelvienne pour voir si l'utérus avait grossi ou pas ou si les ovaires étaient en activité. Donc, on nous a prescrit ces examens, mais le lendemain, nous avons été confinés. Jusqu'à mi-mai, donc nous avons dû attendre. Et effectivement, durant toute cette période, j'ai pu observer Soumeya et voir qu'effectivement, la puberté commençait, puisque les bourgeons mammaires étaient devenus asymétriques, ce développement, et les pertes s'intensifiaient. Et chez les petites filles, c'est beaucoup plus important que chez les femmes.
Et comment ça se passait pour elle, alors, pour Soumeya? Comment est-ce qu'elle vivait tout ça? Parce que déjà, c'est compliqué à l'adolescence de voir son corps changer, mais alors quand on est une toute petite fille...
Alors oui, alors il y a eu donc les deux pans. Il y a eu le côté psychologique où on a vu qu'effectivement il y a eu un changement. Elle était devenue très très émotive, très à fleur de peau. Quand elle rentrait de l'école, elle avait souvent besoin de se décharger, de pleurer, même si à l'école tout se passait bien. Et on a vu que c'était cyclique. Il y avait des semaines où tout se passait bien et puis des semaines où vraiment elle ne supportait plus la contrariété. On avait vraiment l'impression d'avoir une petite adolescente de 7 ans. Et aussi physiquement pour elle, puisqu'elle grandissait à vue d'œil, elle prenait presque un centimètre toutes les 3 semaines. Donc ça a été assez fulgurant.
Donc ça a dû être aussi compliqué pour elle, hein, forcément. Alors elle a enfin pu faire ses examens après le confinement. Qu'est-ce que ça a révélé?
Alors, l'âge osseux a révélé qu'effectivement, elle avait 2 ans de plus, donc un âge osseux de 9 ans. L'écho pelvienne a montré qu'il y avait une, donc l'utérus était au repos, donc pas d'activité ovarienne. Par contre, les urines faites sur 24 heures ont montré effectivement une puberté précoce, donc de stade 2. Et l'IRM était normal. Donc là, on a pu exclure.
Quand même aussi. Oui,
exactement. Ouais. Et enlever le côté pathologique de cette puberté, même s'il y avait effectivement une croissance très, très importante.
Et alors, vous avez une idée des causes de cette puberté précoce ?
Alors, je fais partie des 2 villes en France qui sont le plus touchées, donc Lyon et Toulouse. Alors, pour l'expliquer...
Attendez, il y a 2 villes en France qui sont plus touchées par les pubertés précoces qu'ailleurs.
Exactement. Alors, ça peut s'expliquer par différentes... Enfin, c'est multifactoriel. On peut penser à une meilleure prise en charge, déjà, de la puberté précoce.
Oui, un meilleur diagnostic, peut-être.
Et
oui.
Effectivement, sur Lyon et sur Toulouse. L'eau aussi, également, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on peut retrouver certains perturbateurs endocriniens au niveau de l'eau. Et aujourd'hui, on sait surtout que les 3 perturbateurs endocriniens recensés pour la puberté précoce sont le soja, l'huile essentielle d'arbre à thé et l'huile essentielle de lavande. Dans le cas de Soumaya, c'est une puberté idiopathique, mais on ne peut pas écarter, bien entendu, le facteur génétique. En plus, j'ai une autre petite fille de 2 ans et demi, et bien entendu, on a un peu peur que l'histoire se répète.
Vous pouvez nous expliquer ce que veut dire idiopathique ? Parce que donc, dans mon oreillette, ils ne comprennent pas. Oui.
Alors, sans cause, en fait, sans facteur, puisque au niveau de l'alimentation de Soumaya et au niveau de l'utilisation de ses huiles essentielles, j'en utilisais pas, et Soumaya ne consommait pas de soja. Donc, et au niveau de la génétique, j'ai eu mes règles qu'à 12 ans. Donc,
c'était pas un facteur. Alors évidemment, après ça, c'est posé la question du traitement. Qu'est-ce qu'on met en place quand on a une petite fille qui a une puberté précoce ?
Alors, selon l'endocrinologue de Soumaya, les règles étaient imminentes. Donc, on nous a proposé un traitement hormonal sur 2 ans, à raison donc d'une injection toutes les 3 semaines. Donc, c'est un traitement hormonal. Et puis, durant le confinement, j'avais le temps de potasser pas mal d'études. Et effectivement, il y avait beaucoup d'effets secondaires, notamment les fractures osseuses, la perte de cheveux, la dépression et une importante prise de poids. Donc, face à ça, vous mettez en face le fait qu'elle va avoir ses règles. Donc, il faut savoir que lorsque c'est de la puberté précoce, c'est des règles hémorragiques douloureuse, je suis une femme, voilà, je sais ce que c'est d'avoir ses règles. Et du coup, de projeter ça sur sa petite fille, c'est un peu angoissant, mais à choisir, on a effectivement pris la décision de ne pas la traiter.
Vous avez décidé de ne pas la traiter. Oui. C'est ce que vous avez ressenti profondément dans votre cœur de maman.
Exactement.
Alors, comment est-ce que vous avez expliqué à votre fille, qui a quand même là 8 ans, que finalement, elle devenait une femme ? Parce que là, on est évidemment en décalage tellement fort.
Oui, alors donc j'ai 2 filles. Je savais qu'un jour j'aurais affaire, j'allais raconter les histoires un peu plus romancées de la puberté, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit à l'âge où ma fille joue encore aux poupées, plus à l'adolescence. Du coup, j'ai inventé une petite histoire où elle vivait dans un monde où la puberté arrivait beaucoup plus tôt. Et je me suis aussi aidée de la littérature jeunesse, mais la littérature, c'est vrai qu'elle s'adresse beaucoup aux adolescents. Et quand je lisais les petits livres avec Soumaya, effectivement, elle remarquait, elle me disait « Mais sur les livres, c'est des adolescentes. Moi, je suis une enfant, donc du coup, ne t'inquiète pas, ça ne m'arrivera pas. »
Oui, c'est ça. Elle ne pouvait pas imaginer que ça allait concerner directement,
oui,
là, maintenant.
Oui, et je me rappelle d'une fois, on jouait au Barbie, et elle me demande justement « Quel âge a Barbie ?» Elle me dit « Maman, Barbie, c'est une enfant, c'est une adolescente, c'est une femme. » Et je lui dis, je lui montre la Barbie, je lui dis, vu ses formes, je pense que Barbie est une femme. Et elle me dit, alors pourquoi elle n'a pas ses règles ? Du coup, c'était des questions assez surprenantes venant d'une petite fille de 7 ans.
On sent que ça la travaille, quoi.
Exactement.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile, finalement, pour Soumaya ? Je dirais, le changement physique, le fait d'être en décalage avec ses copines ?
Alors, le changement physique, pas au début, mais ensuite, avec l'apparition des premiers poils au niveau des jambes, au niveau des aisselles, ça a commencé à la complexer. Cet été, par exemple, elle ne voulait plus mettre de débardeur. Elle ne voulait plus non plus mettre de maillot de bain, parce qu'effectivement, elle me disait, mais on va voir mes jambes. Quand je vais vouloir plonger, on va voir mes poils. Mais du coup, comme c'est encore une enfant, arrivée à la piscine, il y a un peu cette innocence, cette insouciance de l'enfance qui prend le pas. Et du coup, c'est passé. Mais ce qui l'a travaillé beaucoup, c'est surtout le fait de se voir grandir très vite. Le miroir lui rappelait constamment qu'elle était sortie de l'enfance, en fait, puisqu'elle se développait. Et se dire qu'elle grandissait et que du coup, elle grandissait aussi en âge pour elle. Et elle me disait souvent, je vais devoir quitter le foyer, je vais devoir partir parce que maintenant, je suis trop grande. C'est surtout ça qui
l'a travaillé. C'est ça, elle a peur que tout à coup, elle soit obligée de prendre son indépendance.
C'est ça.
Et à l'école, ça se passe comment ?
Alors, à l'école, ça se passe plutôt bien, puisque donc, certains enfants sont concernés. Il y a aussi les enfants en surpoids, donc on ne fait pas trop la différence à l'âge de sommeil entre ceux qui sont en puberté et puis ceux qui ont un surpoids. Donc, pour elle, ils sont un peu tous en puberté. Donc, ça lui arrive souvent dans la cour de récréation, d'ailleurs, de faire du diagnostic. Elle me dit « Oh, j'ai remarqué qu'une telle, elle avait pris un peu de sein, donc je pense qu'elle est en puberté. » Ou « Ah, la dernière fois, à la piscine, elle avait quelques poils, donc je pense qu'elle aussi. » Et c'est un moyen aussi pour elle de se rassurer, de se dire que finalement, elle n'est pas seule, elle n'est pas la seule petite fille à avoir cette puberté. Et du coup, c'est beaucoup plus facile.
Vous appréhendez le moment où elle va avoir ses règles, parce que pour le moment, donc, elle est pas réglée?
Oui, alors j'appréhende parce qu'effectivement, son mari est très douillette, que la vue du sang lui fait très peur. Et je me dis, à cet âge, ben, tout ce qui est produit hygiénique ne sont pas du tout adaptés pour les petites filles. Les tampons sont exclus, les tailles des serviettes, c'est pas possible. Et du coup, c'est ce qui m'a amenée à créer ma propre marque de lingerie menstruelle, donc adaptée aux petites filles et aux adolescentes.
Ah oui, vous avez créé carrément des serviettes adaptées.
Alors, des culottes menstruelles.
Des culottes, d'accord.
Adaptées aux petites filles.
Ça, c'est parfait, ça, c'est super.
Oui.
La culotte, ça lui faut, parce qu'elle ne va pas s'en rendre compte. Comment est-ce que vous, en tant que mère, vous ressentez tout ça? Est-ce que vous avez une forme de culpabilité? Parce que généralement, dès qu'il arrive malheur à nos... Enfin, malheur, ce n'est pas un malheur, mais dès qu'il y a une spécificité chez nos enfants... On culpabilise?
Bien sûr, là, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'on culpabilise dans un premier temps de ne pas avoir assez mis d'éviction pour tout ce qui est perturbateur endocrinien, de ne pas avoir fait attention à l'eau. Et puis l'autre culpabilité, c'est de ne pas l'avoir traitée, puisque statistiquement, on vous explique que si vous ne la traitez pas, elle ne sera pas de grande taille. Donc pour Soumaya, on estimait un âge à 1m50, 1m55. Donc vous vous dites que si votre fille est petite, c'est de votre faute en fait. Donc c'est pour ça que j'ai aussi essayé de tempérer, de l'accompagner au mieux en créant une marque de lingerie menstruelle pour l'accompagner et une association au sujet de la puberté précoce pour qu'effectivement elle ne se sente pas seule et de pouvoir l'accompagner au mieux vers cette transition.
Elle va bien en tout cas?
Oui, aujourd'hui. Elle va bien. Oui, elle va bien. Donc elle est un peu complexée aujourd'hui parce que c'était une toute petite crevette, elle commence à prendre un peu de poids. Et c'est vrai que quand on va en rendez-vous avec l'endocrinologue, elle écoute bien ce que l'endocrinologue lui dit. On lui avait beaucoup parlé d'une prise de poids. Et du coup, c'est vrai qu'elle s'était mise un peu à se peser, à faire attention. Et donc, on a fait en sorte de cadrer un peu son alimentation. Heureusement, ce n'est pas une gourmande pour éviter qu'elle développe justement un complexe lié au poids.
Et nous accueillons tout de suite le docteur Héloïse Djabikani. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes pédiatre endocrinologue à l'hôpital Trousseau à Paris. On a reçu beaucoup, beaucoup de questions, forcément, parce que c'est une curiosité hein, pour nos téléspectateurs. Sophia nous a parlé d'un bourgeon mammaire, de perte vaginale. Est-ce qu'on peut quand même faire un point sur les signes en général qui font suspecter une puberté précoce?
Alors, bien entendu, donc effectivement, le développement des seins chez la petite fille, ça va être un des premiers signes. Il peut y avoir de la pilosité, soit sous les bras, soit dans la culotte. Il peut y avoir une accélération de croissance, comme ça a été très bien décrit aussi. Et puis, chez les garçons, puisqu'il y a quand même quelques cas chez les garçons, ce qui va signer le début de la puberté, c'est les testicules qui vont grossir. Et après, il peut y avoir la pilosité.
D'accord. Voilà.
Mais ça touche surtout les petites filles.
Ça touche principalement les petites filles, la puberté précoce, oui, en effet.
Alors, donc, beaucoup de questions. Tiens, la première envoyée en vidéo par Pauline pour vous, docteur.
Bonjour, je suis Pauline, maman d'Alix, chez qui on a diagnostiqué une puberté précoce à l'âge de 4 ans et demi. J'aimerais connaître les effets du médicament pendant la phase de traitement. Saut d'humeur, phase de tristesse intense, est-ce lié à la prise du médicament? Merci.
Avant de parler du médicament, 4 ans et demi, ça vous voyez des pubertés?
Alors,
à cet âge-là?
Ouais. Ça se voit effectivement, c'est pas le plus fréquent, ouais. Hein, donc c'est extrêmement tôt. Et donc là, c'est vrai qu'on va pas très longtemps se poser la question du traitement. Et donc, effectivement, on va proposer ce traitement qui, alors, peut jouer un peu sur le comportement, mais les modifications hormonales, de toute façon, peuvent jouer sur le comportement. Ouais. Donc, c'est difficile de savoir si c'est vraiment le traitement. Qui va être, là, assez rapidement proposé à cet âge-là, effectivement, extrêmement jeune.
Mais globalement, vous êtes rassurante sur les effets secondaires. Je crois que c'est ça qu'elle
alors,
demande.
Alors, on est rassurant. C'est un traitement qu'on connaît bien, qui a été développé dans les années 80. Et les nombreuses études au long terme qu'on a pu avoir ne nous pointe pas de complications sur le métabolisme, sur la fécondité, enfin, en tout cas ce qui a été regardé. Voilà.
Alors justement, en ce qui concerne ce traitement, Soumaya, elle aussi, a eu ce traitement hormonal. Dom demande quels sont les traitements possibles. Est-ce qu'il n'y a que celui-ci?
Alors, il n'y a déjà pas de traitement. Soumeya, elle n'a pas été traitée puisqu'il y avait eu cette histoire de confinement. Mais en tout cas, elle a...
Elle n'a pas eu des injections
on peut faire des injections. Ouais. Et les injections, c'est des injections soit mensuelles, soit trimestrielles. Alors maintenant, il y a une forme également tous les 6 mois, qui ont surtout pour effet immédiat d'être assez douloureuses. Alors c'est vrai que c'est souvent rapporté par les enfants que c'est pénible. Donc on met une petite anesthésie locale avec des patchs. De lidocaïne, voilà. Et
C'est douloureux, mais si c'est 2 parents, bon.
Voilà. Alors, la forme 6 mois, elle est vraiment très récente. On est, en tout cas, ça dépend des endroits. Voilà, on peut faire tous les mois ou tous les 3 mois, en tout cas sur les formes actuelles qu'on utilise.
Et on peut ne pas traiter aussi, pardon.
On peut tout à fait ne pas traiter, surtout chez les petites filles qui ont commencé, certes précocement, mais à un âge moins jeune, on va dire entre 7 et 8 ans, on se pose sérieusement la question. Avant 6 ans, on se pose assez peu la question. On va freiner la puberté, mais après, on peut se poser la question, tout à fait.
Bon, les causes de tout ça.
Eh bien, les causes, on aimerait bien les savoir de façon très précise. A été dit le mot idiopathique. Hein, donc ça, c'est effectivement quand on ne sait pas, surtout, qu'on dit ce mot compliqué. Et il y a probablement un impact de l'environnement. Pourquoi ? Puisqu'on a une légère augmentation ces dernières années, quand même ces 20 dernières années, du nombre de personnes avec des pubertés précoces. Donc on se dit que l'environnement doit jouer. Probablement l'alimentation. On a parlé un peu des perturbateurs endocriniens. En tout cas, l'alimentation, ça s'est assez démontré que c'est majoritairement les petites filles qui soit ont pris du poids, soit sont en surpoids au moment où les signes démarrent.
D'accord. Voilà. Bon, ce qui est hyper culpabilisateur pour les parents de dire ça
Alors, ce n'est pas culpabilisateur, c'est juste qu'on peut essayer effectivement de
diminuer,
par exemple, des grignotages, des erreurs alimentaires. Au contraire, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, sur certains perturbateurs endocriniens, malheureusement.
Lesquels ? On sait lesquels ? Parce que les perturbateurs, on est d'accord qu'il y en a partout, il y en a plein, etc.
Il y en a partout. On y est exposé à différents moments de notre vie. Ces fenêtres d'exposition ont l'air d'être assez importantes sur, effectivement, leur pouvoir à modifier le système endocrinien. Donc, on sait assez peu de choses. On a quelques modèles animaux, mais pas grand-chose chez l'être humain. On sait aussi qu'il y a des choses qui vont être difficilement évitables. On a parlé de l'eau, on a parlé des pesticides. Alors, en tout cas, à titre individuel, c'est vrai que l'huile de lavande, qui est assez régulièrement incriminée, on peut peut-être s'en passer. C'est assez souvent utilisé comme répulsif anti-poux, application sur les cheveux.
Ah, et donc vous déconseillez,
Voilà, ça c'est quelque chose, à mon sens, dont on peut se passer. Il vaut mieux traiter des poux de temps en temps.
Le soja
c'est en grande quantité, donc voilà, c'est pareil. Il ne faut pas manger du tout de soja, mais effectivement, pas avoir une alimentation...
Et les pesticides, donc, dans l'idéal, on mange bio ?
Dans l'idéal, on mange bio, c'est pareil, j'ai pas de preuves.
Non, mais en tout cas, on est dans le conseil de bon sens, là.
Oui, probablement. La question aussi, c'est est-ce que c'est une exposition qui a eu lieu pendant la grossesse ? Est-ce que c'est une exposition qui a eu lieu quand ils étaient tout petits ?
Docteur, plein de questions. Victoria vous demande, par exemple, quels sont les examens pratiqués pour établir le diagnostic ? Et moi, je rajouterais aussi, est-ce que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous typiquement avec vous ? Est-ce que ça prend du temps ?
Alors, je vais commencer par les examens, d'accord. Déjà, il y a voir l'enfant, c'est-à-dire examiner, on sait bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, elles peuvent être en surpoids, et c'est important à la palpation de pouvoir se rendre compte s'il y a effectivement ou pas un développement de glande mammaire chez les petites filles, et évaluer le volume testiculaire, c'est pareil, c'est au médecin de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les examens qui peuvent en découler, ça va être effectivement une échographie pelvienne où on va pouvoir voir l'utérus, voir s'il y a une imprégnation hormonale au niveau de l'utérus. Et puis, tout simplement, nos fameux dosages hormonaux auxquels on tient, qui vont permettre de savoir à quel stade, à quel niveau de la puberté on est. Et ça va se faire soit en ambulatoire, en ville, en laboratoire de ville, soit à l'hôpital. Et donc là, on vous donnera rendez-vous à Trousseau ou dans les autres hôpitaux, en tout cas en Île-de-France, pour faire un test de stimulation, voir comment répondent les hormones de cette puberté.
Radio du poignet aussi ?
Radio du poignet également, c'est un faisceau d'arguments qui va nous aider, radio du poignet pour évaluer l'âge osseux.
L'âge osseux par rapport à l'âge réel.
Par rapport à l'âge civil, exactement.
Et donc combien de temps pour avoir rendez-vous avec un endocrinologue, pédiatre endocrinologue ?
Alors pour une puberté précoce, c'est un peu plus court, c'est-à-dire que quand on vient voir un endocrinologue pour un problème de croissance, on va se donner un peu plus de temps. Pour une puberté, on sait qu'il va falloir rapidement, donc on va dire que ça va être 3 mois dans un hôpital. Dans un hôpital parisien.
Je pensais que c'était pire.
Il y a des endocrinologues en ville également, il ne faut pas hésiter à aller voir mes collègues en ville.
Alors Rose vous demande, dans un cas de puberté précoce, les règles sont-elles plus abondantes et plus douloureuses ou pas du tout ?
Alors non, il n'y a pas de différence. Les règles, de toute façon, quand elles surviennent, qu'elles se soient de façon précoce ou pas, elles vont survenir très peu régulièrement au début, d'accord ? Donc ça peut être 2-3 mois d'écart. Elles sont généralement peu douloureuses, en tout cas au tout début. Il n'y a pas de différence entre puberté précoce ou puberté normale, on va dire.
Question de Leïla qui vous demande s'il y en a plus qu'avant.
Alors oui, il y en a plus qu'avant. Sur certaines populations, notamment au Danemark, où ils ont des registres, donc on sait très bien qui a fait une puberté, à quel âge. Effectivement, ils ont montré sur les 25 dernières années une augmentation de la puberté précoce. Donc oui, il y a une augmentation.
Alors justement, au niveau de l'accompagnement des enfants qui ont une puberté précoce, Olivia demande, c'est compliqué physiquement et psychologiquement pour des enfants de moins de 10 ans de devenir pubère. Est-ce qu'un accompagnement psychologique est proposé?
Alors je pense que c'est absolument essentiel et j'irai même plus loin. Je pense qu'il faut accompagner les enfants mais également les parents parce qu'on peut être assez démunis d'expliquer ce qu'on aurait expliqué plutôt à un âge plus tardif à un enfant qui a 6-7 ans. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'avoir recours à un psychologue qui connaît ces difficultés-là, c'est essentiel. Nous, c'est vrai qu'on le fait régulièrement à l'hôpital.
Il y a peut-être aussi des livres à leur mettre entre les mains.
Exactement. Alors, il y a des livres. C'est pareil, ils ne sont pas toujours adaptés. Mm-hmm. Et puis, nous, on les voit aussi assez régulièrement. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'endocrinologue pédiatre qui les suit, notamment quand il y a un traitement, même s'il n'y a pas de traitement, de retravailler tout ça avec eux à chaque consultation. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
Mm. Anna, ça doit vous intéresser. C'est un sujet qui vous est cher, notamment les règles pour les petites filles. Il faut qu'on parle, nous, parents, c'est le rôle des médecins, mais aussi parents, des règles tout simplement aux filles pour pas que le jour où ça arrive, ça soit un drame, surtout à cet âge-là.
Exactement, surtout que c'est très simple de parler des règles. Et on met plein de choses derrière les règles, alors qu'en fait, c'est un écoulement mensuel, le plus souvent, et que en fait, c'est pas grand-chose, alors qu'on en fait une histoire d'état. Je pense qu'il faut en parler très simplement et assez tôt, non ? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense qu'il faut en parler tôt et on est assez surpris de la capacité de compréhension et de mettre ça un peu loin d'eux, des enfants, y compris à ces âges-là, en fait. Ouais. Ah oui, ça va se passer comme ça, d'accord.
Et du coup, le jour où ça arrive, c'est plus du tout un drame. Il y a quelques générations, on n'en parlait pas ? C'était une surprise quand ça arrive ?
Je pense que ça dépend beaucoup des familles, ça dépend des vécus personnels et il faut les aider. Alors c'est pareil, hein, il y a des familles où moi j'ai que le papa et le papa est encore plus démuni parce qu'il ne peut pas parler de son expérience personnelle. Dans ce cas-là, c'est vrai que je m'aide des tantes, des grands-parents, des grands-mères. Voilà, je pense qu'il faut que ce ne soit pas un tabou. Et en parler avec sa tante, c'est possible aussi.
Mais oui, c'est bien d'en parler quand même avec une femme qui peut dire moi quand j'ai ton âge.
Exactement.
Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas à l'aise. Bref. Yasmine, non ?
Non, pas vous.
Vous ne voulez pas poser une question ?
Si, je veux bien. Certaines régions de France, comme la région lyonnaise et la région toulousaine, on en parlait tout à l'heure, sont plus touchées. Pourquoi ces disparités, demande Bérangère ?
Alors effectivement, c'est une étude assez récente qui a montré qu'en France, on a certaines zones un petit peu où on a plus de puberté précoce. On ne sait pas très bien, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, probablement il y a un lien avec les pesticides. Ce lien, il n'est pas direct, il n'est pas prouvé. Mm-hmm. Donc c'est un peu difficile de vous répondre. Dans cette étude, c'était les jeunes filles qui étaient traitées pour leur puberté. Ce n'était pas toutes les pubertés précoces de France. Donc on a peut-être un petit biais aussi sur les pratiques des collègues en fonction de la région toulousaine et de la région lyonnaise.
Alors, question d'Alex. Est-il vrai que le traitement par injection pour stopper la puberté précoce engendre des difficultés pour tomber enceinte à l'âge adulte ?
Alors ça, vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup d'études depuis. Je vous dis que c'est un vieux traitement et ce n'est pas le cas. Il y a certaines études qui ont montré ça au début. Il y a d'autres études qui l'ont plutôt contredit. Et voilà, 1980, les premières petites filles traitées avec ce traitement, elles sont maintenant suffisamment grandes pour qu'on ait le recul pour dire que non, il n'y aura pas de problème
pas de conséquences sur la fertilité des petites filles.
Est-ce qu'on peut rappeler, on en a parlé tout à l'heure, comment ça se passe, comment ça se manifeste chez les garçons, demande Maya.
Donc chez les garçons, alors ce qu'on va voir hein, en tant que parents, en tant qu'entourage, et puis le petit garçon, ça va être la pilosité. Mmh. En pratique, c'est déjà la deuxième phase, puisque la première phase, ça va être les testicules qui vont grossir de taille. Sauf que ça, ça ne se voit pas forcément.
Oui.
Les parents ne vont pas le regarder, c'est très bien comme ça.
Oui.
Et les petits garçons ne vont pas forcément le dire. Donc en tout cas, une pilosité pubienne ou sous les bras chez les garçons, ça doit
alerter. Ah c'est ça, ce n'est pas les jambes par exemple.
Non,
on doit pas,
non. Si c'est
on
pour ça que je précise bien, c'est sous les bras. Et dans la culotte ou dans le slip.
D'accord.
Voilà. Et l'âge moyen normal, le mot normal n'est pas bon, mais classique, chez les garçons c'est...
Alors, on est plutôt autour de 11 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons.
On a un petit retard, nous.
Voilà.
Toujours.
Un décalage.
Sur quelques sujets, un décalage, merci. Y a-t-il un âge limite avant lequel démarrer le traitement par injection ?
Alors c'est vrai qu'après 8 ans, on se pose vraiment encore plus la question de le démarrer. On le démarre beaucoup moins chez les petites filles après 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça ne se passe pas si mal une fois qu'elles sont bien accompagnées, qu'elles sont prêtes à au changement corporel, aux règles qui ne surviendront quand même pas tout de suite. Généralement, ça suffit. Donc on met assez peu le traitement après 8 ans. On fait au cas par cas. Les petites filles qui sont en difficulté pour d'autres raisons, des difficultés d'apprentissage, des redoublements, des choses comme ça, je pense qu'il faut aussi avoir l'esprit un petit peu ouvert et à ce moment-là, discuter le traitement.
Amélie nous dit, ma petite fille de 5 ans, 6 ans au mois de décembre, a des pertes vaginales assez régulièrement, se plaint souvent qu'elle a mal, ça pique à ce niveau-là. Est-ce que ça pourrait être une puberté précoce?
Alors, c'est des signes qu'on peut voir quand il y a un développement mammaire. S'il n'y a pas de développement mammaire, qu'il n'y a pas de pilosité, qu'il n'y a pas d'autres signes, il faut quand même se pencher en tout premier lieu sur des causes locales, c'est-à-dire évidemment l'hygiène. C'est l'âge où généralement elles veulent se nettoyer un petit peu tout seul et il faut les accompagner là-dedans aussi. Et puis, vérifier aussi qu'il n'y a pas de localement une infection, n'importe quoi, sur la peau qui peut occasionner ces pertes-là. C'est pas forcément ça, c'est pas la première chose en l'absence de développement mammaire, en l'absence d'autres signes de puberté à laquelle on va penser.
C'est le pédiatre qui va...
Exactement, c'est l'examen clinique.
Est-ce qu'avec un début de puberté précoce, la croissance de ma fille est en danger? Souvent on dit qu'au moment de la puberté, on arrête de grandir.
Alors, on n'arrête pas de grandir. Au contraire, la puberté, c'est un moment important pour grandir et on grandit pendant toute la puberté. On fait un énorme pic de croissance. La seule chose, c'est que si on fait sa puberté tôt, on va s'arrêter de grandir plus tôt. Et donc finalement, si on fait, c'est un peu théorique, mais sa puberté 2 ans avant les autres, on va grandir 2 ans de moins. 2 ans à 5 cm par an en moyenne.
Oui,
effectivement, sur la taille adulte, on peut avoir un retentissement. Ce qui est très difficile pour nous, c'est de savoir, on sait quand ça va commencer, c'est le développement des seins. En revanche, il peut y avoir un plus grand délai avec la survenue des règles et le pic de croissance n'est pas forcément corrélé au développement mammaire.
Voilà, merci beaucoup docteur Héloïse Diabicani, c'était très intéressant, très enrichissant et merci évidemment à Sophia d'être venue nous voir sur le plateau de la Maison des Maternelles. C'était sur France 2, on se donne rendez-vous demain dès 9h25, 9h28 sur France 2 et puis bien sûr en podcast un peu n'importe quand. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire quand vous écoutez ce podcast et où, ça nous plaît beaucoup de savoir ça, voilà, c'est comme ça. On aime bien savoir comment vous consommez ce podcast, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram et puis vous me le dites. Allez, à demain tout le monde, ciao.